Vincent Zanetti, 8h22, vous nous parlez aujourd'hui du luth arabe. Mais avant tout, j'ai un doute d'ordre linguistique. Est-ce qu'on dit le oud ou alors est-ce qu'on peut mettre une apostrophe et dire l'oud?
Bah écoutez, Jonas, c'est une manière d'entrer en matière comme une autre. En fait, en français, théoriquement, on pourrait dire les deux. Mais il se trouve effectivement que les spécialistes prononcent toujours le oud comme s'il y avait un H au début du mot parce que ça vient de l'arabe et que dans cette langue, on dit al-oud. D'ailleurs, on trouve très souvent dans les ouvrages spécialisés une apostrophe avant le mot, même lorsqu'on écrit un oud, on ne fait pas la liaison entre les deux. Al-oud, donc, c'est sans doute l'instrument emblématique par excellence du monde arabe, depuis l'Azerbaïdjan jusqu'au Maroc, en passant par la Syrie, l'Irak, tout le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. C'est un instrument aussi populaire qu'est la guitare chez nous, par exemple, mais depuis beaucoup plus longtemps. C'est l'ancêtre direct du luth européen qui est arrivé chez nous par l'Andalousie musulmane. Les formes sont d'ailleurs très semblables. Hein. C'est un luth trapu avec un manche court dont la tête repart vers l'arrière selon un angle à 120 degrés environ. Une caisse de résonance très volumineuse constituée d'un nombre variable de côtes de bois collées. Une quinzaine en général. Et puis une table de résonance en bois fin percée d'une ou plusieurs ouïes, fréquemment ornementée par un travail d'ébénisterie tout en finesse dans la grande tradition de ces motifs décoratifs arabo-andalous. Et puis finalement un jeu de 11 cordes en boyau que l'instrumentiste pince à l'aide d'un long plectre en plume taillée ou en corne. Mais là alors, la grande différence avec le luth occidental, c'est que le manche du oud est dépourvu de frettes. Il est donc aussi lisse que celui d'un violon, ce qui permet de jouer des intervalles inconnus dans nos répertoires européens.
Évidemment, j'ai cassé toute la magie. Ah, le silence est d'or avec le
une initiation,
son du oud.
Jonas.
Heureusement, vous êtes là, Vincent Zanetti. Donc, le oud, le luth arabe par excellence, vous évoquiez l'Andalousie médiévale, donc un instrument vraiment très ancien.
Absolument. Il y a même une tradition qui dit qu'il aurait été créé par Lamak, qui aurait été un des fils de Caïn. Mais les auteurs arabes de la fin du 19e siècle, eux, datent la première apparition du oud à la fin du 3e siècle de notre ère, sous la dynastie sassanide. Et il y a même certaines sources qui prétendraient qu'il aurait été conçu par Mani en personne, et que les manichéens, les disciples de Mani, donc, l'auraient ensuite exporté sur les routes de la soie, vers la Chine d'un côté et vers l'Andalousie de l'autre. Puis justement, l'Andalousie, dès le 9e siècle de notre ère, l'instrument, alors là, c'est attesté, apparaît véritablement, se développe, s'épanouit avec Ziryab, l'inventeur de la musique qu'on appelle aujourd'hui arabo-andalouse, qui est tout simplement la musique andalouse pour les arabophones. Lui arrivait de Bagdad et c'était aussi un excellent joueur de oud. Ce qui est sûr, c'est que cet instrument a occupé très tôt une place prédominante dans la musique arabe, et puis qu'ensuite il ne l'a plus abandonné. J'en veux pour preuve cette immense discographie contemporaine de l'instrument, dans des répertoires très différents. Les musiques populaires, les répertoires classiques arabes, les traditions régionales diverses. Un grand essor du jeu en solo, qu'il faut souligner depuis plusieurs décennies, avec notamment l'œuvre incontournable de toute une école irakienne, qui a évidemment disparu avec la guerre. Je pense par exemple au disque magnifique de Mounir Bachir ou de Nasser Chama. Et puis, donc, depuis quelques décennies également, une entrée remarquée dans le jazz avec des gens comme Rabbi Abou Khalil, Anwar Brahem ou Dafer Youssef.
Que des noms d'hommes, finalement.
Ben oui, c'est vrai. C'est que longtemps, en terre d'islam, le jeu instrumental a surtout été l'apanage des hommes. Et quand une femme se distinguait, ce qui est quand même arrivé parfois, enfin on a des traces dans l'histoire, c'est qu'elle était elle-même fille d'un maître de musique, mais ça lui donnait pas forcément le droit de jouer en public. Aujourd'hui, heureusement, les choses changent. Les femmes restent encore bien moins nombreuses que les hommes, mais on peut entendre de vrais virtuoses dans presque tous les pays de culture arabe ou persane, depuis l'Iran jusqu'au Maroc. Et d'ailleurs, la musique qu'on vient d'entendre et celle que j'aimerais vous faire écouter pour finir est précisément le fait d'une femme, peut-être d'ailleurs la première, vraie grande soliste d'envergure internationale. Elle s'appelle Yousra Dabi, elle est tunisienne, mais elle habite aujourd'hui à Lausanne. Et je viens d'apprendre qu'elle avait été nommée professeure au conservatoire de Lausanne, ce qui est une chance pour cette institution, puisqu'auparavant, avant de s'installer en Suisse, Yousra Dabi a enseigné au conservatoire national de Tunis. Elle a même été la directrice de cette institution.
Alors son jeu,
bah écoutez, ça se distingue vraiment par la justesse, la fluidité et l'inventivité. Thank you.
l'art du luth oud, selon Yousra Dabi, brillante soliste tunisienne, Vincent Zanetti. Chuchotement, c'est le nom de la c'est pièce ça. Qui porte bien son nom. Elle improvise un peu, elle part sur un mode.
C'est un makam qu'elle choisit au départ. Et oui, il y a une grande part d'improvisation, mais tout de même, le chemin est tracé. Et c'est tout de même considéré comme des compositions.
C'est tiré de son CD Rhapsodie pour luth, publié par l'Institut du Monde Arabe. Et puis elle sera en concert, vous l'avez dit, vendredi et samedi prochain à 21h au Pois Chiche à Lausanne, Yousra Dabi. Je sens que vous allez l'inviter un jour ou l'autre dans votre émission de dimanche. C'est à 13h30, l'écoute du monde sur Espace 2.